La fin du régime baathiste en Syrie continue de rebattre les cartes dans la région, ou plutôt donne le sentiment qu'un barrage a sauté et remet en cause tous les équilibres traditionnels, ouvrant la voie à toutes les ambitions et toutes les idées de refonte du Moyen-Orient. Des Alaouites massacrés par le nouveau régime sunnite ont appelé Israël à l'aide. Les Iraniens s'inquiètent des ambitions turques dans l'espace ex-ottoman syrien et irakien, voire de déstabilisation sur leur propre territoire. Dans le même temps où en Israël se tiennent des discours alarmistes sur une confrontation prochaine avec la Turquie, et où la menace iranienne, omniprésente ces 30 dernières années, semble presque s'évaporer soudain. Au milieu de tout cela, Ahmed el-Shara, anciennement al-Jolani, incarne une nouvelle Syrie qui cherche à rassurer mais n'en finit pas d'inquiéter, car on ignore quelles sont ses ambitions. Bref, le croissant fertile est aujourd'hui le croissant hostile, et le Levant et son arrière-pays ressemblent plus que jamais à l'Europe à la veille de la Première Guerre mondiale. La poudrière syrienne va-t-elle à son tour aboutir à une grande guerre d'Orient? Bonsoir, je suis Philippe Fabry. Nous sommes le 29 mars 2025, il est 21h45. Nous sommes en présence de l'indémodable et néanmoins giblisé Léo Portal. Comment vas-tu, Léo?
Je suis censé parler en japonais là.
Je sais pas.
Ça va et toi?
Écoute, ça va bien, ça va bien. C'est dommage, j'ai presque pensé à faire mon petit déguisement de dictateur. De dictateur moyen-oriental, mais j'ai oublié ma casquette et mes lunettes de soleil là-haut, et je pouvais pas remonter parce que je risquais d'exciter les gosses alors qu'ils étaient en train de se calmer juste avant de s'endormir. Donc malheureusement, je ne le fais pas. Peut-être que j'essaierai de le faire une fois qu'ils dormiront pour le live privé des souscripteurs qui suivra ce live comme d'habitude, dans lequel nous répondrons à toutes vos questions. Admire la transition. Et
J'admire.
bien sûr, nous répondrons. Je répondrai aux questions dont à la fin de cette émission-ci. Et je vous rappelle, ça fait un moment qu'on ne fait pas les rappels, que si vous voulez nous soutenir, vous pouvez partager cette émission, mettre un petit pouce bleu. Naturellement, vous abonner si ce n'est pas fait, allumer la cloche pour avoir toutes les notifications. Et vous pouvez doubler pratiquement la quantité de contenu. Que vous voulez en nous soutenant selon les différentes formules de souscription qui vous donnent accès notamment au live privé souscripteur qui va suivre jusque-main, il y en a 4 par mois, et au bulletin géopolitique dans lequel je reprends l'actualité de toute la semaine. Cette semaine d'ailleurs qui vient, probablement que je l'enregistrerai que mercredi au lieu de mardi, parce que j'ai un petit empêchement, donc il sortira peut-être un jour après. Voilà. Ce que je voulais dire. Et précisément, ceux qui suivent le bulletin géopolitique, je sais qu'ils ne sont pas si nombreux, beaucoup de ceux qui y ont accès ne le regardent même pas, mais je continue de le faire, parce que ceux qui l'auront suivi auront justement vu un certain nombre d'actualités qui justifient ce live, qui justifient ce retour sur la question du Moyen-Orient dans son ensemble. Parce qu'effectivement, il y a tout un tas de glissements qui sont en train de s'opérer. Avec ces informations qui sont sorties, comme quoi, au plus haut niveau en Israël, donc notamment du côté de Netanyahou, on parle d'une confrontation qui serait quasi imminente avec la Turquie. Ce qui nécessiterait de, quelque part, trouver une zone tampon dans le sud de la Syrie. Et de l'autre côté, vous avez les Iraniens donc qui se sont lancés un petit peu dans alors je dirais pas une guerre des mots, c'est peut-être à ce stade encore un petit peu excessif, mais il y a eu des échanges assez peu amènes entre la Turquie et l'Iran, le ministre turc des Affaires étrangères, Hakan Fidan, a indiqué que, a averti Téhéran, je cite, ceux qui habitent des maisons de verre devraient éviter de lancer des pierres. C'est ce qui est quand même alors, la formule est rigolote, mais c'était si vous voulez une réponse aux critiques avancées par l'Iran sur la politique turque en Syrie, et donc on, voilà, il y a un petit peu ces échanges de mots qui sont apparus et qui, mine de rien, sont assez nouveaux dans les relations entre la Turquie et l'Iran, même si, comme j'ai eu l'occasion de le rappeler plusieurs fois, historiquement, ce sont les deux pôles de la région. Et c'était déjà le cas sous l'Empire romain. Hein. Toute cette partie, la partie sur laquelle la Turquie cherche à étendre sa domination aujourd'hui, c'est la partie Syrie et Mésopotamie, c'est-à-dire l'ancienne Assyrie, finalement. En direction de laquelle Trajan avait lancé ses conquêtes, et puis ensuite vous aviez les Sassanides qui les avaient repris, puis il y avait l'empereur Julien qui avait voulu refaire une campagne, puis vous avez eu les grandes guerres perso-byzantines qui ont épuisé les deux empires et qui ont facilité la conquête islamique de toute la région, et on a vu réapparaître les mêmes guerres finalement. Avec autour du XVIe siècle, avec la fin des invasions mongoles de l'Empire de Tamerlan, etc., l'installation de l'Empire, le nouvel Iran, si vous voulez, le nouvel empire perse des Safavides, et de l'autre côté, donc l'émergence de l'Empire ottoman. Et ça a été une ligne de friction pendant des siècles entre les deux dans cette région. Donc on a une permanence là. Qui s'était un petit peu effacé depuis des décennies finalement, puisque toute la période finalement depuis la chute de l'Empire ottoman a été une période d'abandon des ambitions turques dans cette région-là. Les ambitions turques sont réapparues avec Erdogan véritablement, et naturellement, elles se sont manifestées à travers la guerre en Syrie et elles continuent de se manifester maintenant avec la tentative de progression en direction de l'Irak notamment. La Turquie est devenue le premier partenaire commercial de l'Irak devant l'Iran, donc l'influence politique reste encore à l'Iran, mais l'influence économique clairement est passée du côté turc, et on sait, infrastructure, superstructure, que assez clairement à terme l'influence économique devrait dicter l'influence politique, et donc il y a un risque élevé de basculement de l'Irak en direction de l'Iran. Et donc je pensais que ce serait bien de refaire un petit tour historionomique de la région, en particulier parce que j'ai jamais fait de point complet à ce propos-là. Comme émission précédente auquel je peux vous renvoyer si vous voulez étendre la réflexion après ou vous remémorer des trucs, il y avait naturellement l'historionomie du monde arabo-musulman, qui doit avoir un peu plus de dents, cette émission, qui est importante, elle est dans la playlist des essentiels. Et puis il y avait celle sur l'historionomie d'Israël, avec les questions justement sur l'avenir d'Israël, sur lesquelles il faut revenir, puisque dans El César, j'ai donc le dernier bouquin, hein, qui est là, puisqu'il n'est pas en bannière ce soir, je ne sais pas pourquoi. Il a été question, je suis revenu sur ce qui caractérisait la catégorie à laquelle se rattache Israël, qui sont en fait des États jeunes, comme les États-Unis au 19e et 20e siècle. Et donc naturellement, ça a apporté des nouvelles réflexions. On m'a posé la question la semaine dernière, ça m'a permis d'avancer un peu aussi, parce que j'ai continué à réfléchir après. J'ai répondu à d'autres questions d'ailleurs dans le live privé souscripteur sur la nature de la Turquie d'Erdogan. Je voudrais y revenir un peu publiquement aujourd'hui pour que ce soit clair pour tout le monde. Donc en fait, refaire tout simplement, expliquer où en sont tous les pays dans la région. Ce que vous savez déjà, mais on va faire le point là-dessus, et ensuite on verra vers quoi ça nous amène dans le futur du coup, parce que l'idée c'est toujours d'aller plus loin, pas juste de répéter ce que j'ai déjà dit. Alors, on va reprendre les acteurs les uns après les autres, très rapidement, juste pour rappeler où est-ce qu'ils en sont. L'Iran, alors je rappelle que l'Iran, la République islamique d'Iran, on est enfin dans ces régimes, historiquement, c'est-à-dire que, je vous rappelle, il y a eu une première, ce qui était la révolution nationale normale dans la croissance du pays, qui avait débuté en 1979, et ensuite, comme pendant qu'ils étaient en révolution nationale, ils ont été attaqués, hein, encore une fois, le syndrome de la révolution nationale contrariée, ou de l'impérialiste revancheur contrarié, ce qu'il y avait au même, vous avez donc un redémarrage d'ancien régime, une légitimation comme défenseur de la patrie du régime des Mollahs, qui sans ça serait resté un régime révolutionnaire, aurait duré quelques années. Imagine de quoi nous a privé Saddam Hussein. À cause de Saddam Hussein, vous vous retrouvez 40 ans après encore avec les Mollahs, alors qu'ils auraient dû disparaître à la fin des années 80 si on avait touché à rien. Mais bon, malheureusement, ça n'a pas été vu comme ça. Donc, aujourd'hui, nous avons donc un Iran qui est en fin de... Ah, il y a des problèmes de son, on me dit. Quelqu'un, est-ce que... C'est Poisson qui nous dit ça. Est-ce qu'il y en a d'autres qui ont la même chose? Vous me dites, si dans les commentaires. Tu surveilles, Léo, s'il te plaît. Un Iran qui est en fin d'ancien régime et qui, en fait, est à une défaite militaire, grosso modo, de l'effondrement du régime. Hein. Et raison pour laquelle, sans doute, ils sont assez prudents. Prudence qui les a amenés à reculer. D'ailleurs, ils ont déjà pris des défaites importantes, même si c'est plutôt leur proxy, au Liban et en Syrie, naturellement. Et l'Irak pourrait être le prochain. Et ça, naturellement, c'est une crainte pour eux, puisqu'à ce moment-là, ils perdraient leur glacis. Ça représente un peu leur glacis en direction de l'Occident. Tout ça, et donc, ils risqueraient de se retrouver à nouveau avec une Turquie superpuissante qui redeviendrait de niveau ottoman. Ça serait extrêmement inquiétant pour eux, parce qu'en plus, désormais, la Turquie est aussi peuplée que l'Iran. Hein, on est sur 83-84 millions les deux. Donc, le fait de posséder en plus, ou de dominer en plus, d'avoir comme état vassal la Syrie et l'Irak, c'est ça qui faisait basculer l'équilibre, si vous voulez, du pouvoir du côté iranien jusqu'à présent. Et le fait de perdre ces bastions, ou d'avoir déjà perdu la Syrie, déjà ça rééquilibre les relations avec l'Iran. Si en plus l'Iran perd l'Irak, c'est clairement un basculement vers la puissance de la Turquie qui serait importante. Enfin voilà, sur l'Iran, donc on est sur une fin d'ancien régime, mais ça veut dire que l'Iran va encore subir des revers qui, inversement, risquent de favoriser la Turquie. Je vais y revenir. L'Irak et la Syrie, où est-ce qu'ils en sont? Ben, tous les deux, ils sont sur une fin de révolution nationale, puisque, je le rappelle, la Syrie, c'est assez clair, la Syrie a connu une révolution nationale classique qui a commencé à partir de 2011. Je renvoie à l'émission que j'avais faite justement là-dessus. Ça devait être au moment de la chute de Bachar al-Assad, je pense, ou bien de la reprise des hostilités avec Ayatollah al-Sham. Je sais plus, c'était une des émissions que j'avais fait par là. Je vous avais fait toute l'histoire de la Syrie, hein. Donc c'est classique, hein. Vous aviez une révolution nationale qui a commencé donc en 2011. Et donc, clairement, ce que je ne cesse de dire, c'est que Al-Shara est vraisemblablement l'impérialiste revanchard, le Bonaparte, si vous voulez, syrien. Alors, l'impérialiste revanchard, on verra s'il cherchera à aller à l'extérieur. Hein. Ça aussi, c'est une chose dont je vais reparler dans un instant. C'est une question de masse stratégique relative. A priori, la Syrie toute seule, elle serait plutôt du genre à finir comme l'Espagne de Franco, c'est-à-dire à se replier sur elle-même et essayer déjà de ne pas éclater. Mais si derrière elle est soutenue et armée par la Turquie, ben forcément ça accroît artificiellement sa masse stratégique relative et on peut se retrouver comme une Italie de Mussolini ou quelque chose comme ça, c'est-à-dire une puissance qui peut avoir des ambitions au-delà de ce qu'elle est effectivement capable d'accomplir vu sa masse stratégique relativement à celle des voisins, hein, naturellement. Donc la Syrie, voilà, on est en fin de révolution nationale, mais encore dans le mouvement, hein, en phase d'impérialisme revanchard. L'Irak, ben, comme j'ai déjà eu l'occasion de l'expliquer aussi, il est en fait au diapason de la Syrie, c'est-à-dire qu'il s'est passé toujours les mêmes choses en même temps. L'Occident a artificiellement déclenché le début de la révolution nationale en Irak en renversant Saddam Hussein. Si ça n'avait pas été le cas en 2003, Saddam Hussein aurait probablement été victime du printemps arabe en 2011. Ça aurait été la même chose qu'en Syrie, en fait, puisqu'il aurait eu face à lui une majorité écrasante de chiites excités par l'Iran contre son pouvoir. Donc vous auriez eu une chute de Saddam Hussein, et vous auriez eu l'État islamique en Irak et en Syrie, qui est la phase, on va dire, paroxystique des forces révolutionnaires et de guerre civile, qui aurait existé aussi, parce que c'est dans le désert qui connecte l'Irak et la Syrie, et qui sont également des zones sunnites, que ça s'est constitué. Donc de toute façon, il se serait passé la même chose si Saddam Hussein n'avait pas été renversé en 2003. En réalité, tout ce qu'ont obtenu les Américains en faisant ça, c'est faire un peu plus de morts que nécessaire en Irak, eux-mêmes perdre des milliers de soldats et des milliers de milliards de dollars. Ça n'a servi absolument à rien. Et donc l'Irak, on devrait être, si elle n'avait pas été perturbée à la fois par l'intervention iranienne, etc., et puis les Américains toujours qui avaient essayé de mettre en place le système politique démocratique qu'ils ont essayé de mettre en place, assez clairement, on serait aussi en fin de révolution nationale, probablement quelque chose comme un impérialiste revanchard. Bonne question, savoir ce que ça donnerait un impérialisme revanchard du coup en Irak. Est-ce qu'il y en aura un ? Comme vous le savez depuis un moment, je dis que il y a une pulsion nationaliste qui est assez liée à une révolution nationale en Irak, qui devrait s'exprimer contre l'Iran, qui ne l'a pas fait en raison de la présence américaine, qui l'a fait un petit peu malgré tout en 2019, je rappelle. Hein, je n'avais parlé dans des émissions, donc je ne vais pas dans le détail dessus, mais ça c'était dans l'émission l'Iran en mode berserk, que j'avais fait il y a quelques mois. J'avais expliqué que en 2019, vous avez eu un certain nombre de manifestations qui ont touché l'ensemble de l'Irak, qui était, c'était pratiquement Iran go home, hein, que l'Iran s'en aille, y compris dans les régions chiites. Et c'est un petit peu tout le problème du Covid qui a mis fin à ça. Mais j'ai toujours tendance à supposer que dans le désengage par Donald Trump de Soleimani, il y avait peut-être l'idée d'essayer de favoriser justement un soulèvement irakien contre l'Iran en dénisant la capacité iranienne à dominer l'Irak, puisque c'était essentiellement Soleimani qui était un petit peu le proconsul iranien en Irak avec sa force Al-Quds qui avait été butée comme ça par Trump. Bon, mais juste derrière, il y a eu la pandémie qui a un petit peu tout figé. Donc voilà où en est l'Irak. Fin de RN, possibilité toujours qu'apparaisse un impérialiste revanchard qui pourrait être un nationaliste simplement qui mettrait l'Iran dehors, par exemple. Ça pourrait être quelque chose comme ça. Lui-même, il pourrait être financé par la Turquie, on va dire. L'Égypte, où est-ce qu'on en est ? Parce qu'il faut quand même parler dire un mot de l'Égypte. L'Égypte, elle est en plein impérialisme revanchard aussi, mais impérialisme revanchard type Franco. On est plutôt ça avec Sissi, encore que ça pourrait déborder. Ça pourrait déborder en direction du Soudan, par exemple. Ça pourrait déborder aussi en direction de la Cyrénaïque, le cas échéant. Mais pour l'instant, les conditions n'ont pas été réunies. Et donc, on est plutôt sur une absence de mouvement. Et le problème, c'est que l'Égypte a déjà réglé le fait d'avoir une énorme population difficilement nourrie. Par contre, Sissi construit des tas de trucs d'impérialistes revanchards. Hein, quand vous regardez, j'ai publié l'autre jour sur X, les nouveaux bâtiments du gouvernement au Caire. Alors, c'est magnifique. Franchement, ça a de la gueule. Ça a de la gueule, effectivement, on dirait des bâtiments dans Dune ou un truc comme ça. C'est un côté science-fiction, mais qui en même temps qui récupère une esthétique de l'Égypte antique, pré-islamique donc. Donc c'est ça qui est assez joli avec ces côtés un peu semi-pyramidal, vous savez, de pyramides tronquées comme pas les pyramides, mais les temples à Karnak par exemple. Vous savez, ces énormes pylônes comme ça qui existaient. Donc le résultat est pas mal. Mais ça fait un peu mal de dire qu'ils construisent ça dans un pays où ils sont en moitié ruinés et où la population vit complètement entassée dans des conditions épouvantables dans beaucoup d'endroits. Donc voilà, mais enfin, hier classique, j'ai envie de dire. Un mot de l'Arabie Saoudite. Pour moi, l'Arabie Saoudite avec Mohamed Ben Salman, alors c'est difficile d'être tout à fait exact. Je pense qu'on est peut-être en fin de phase oligarchique, début de phase absolutiste, parce que l'État saoudien, finalement, il date du XVIIIe siècle. Alors, il s'est beaucoup étendu au cours du XXe siècle, mais le noyau lui-même a quand même cet âge-là. Donc, 200 ans après, ça serait logique qu'on soit en phase absolutiste, peut-être fin de phase oligarchique, voilà, avec la centralisation du pouvoir sous Ben Salman, peut-être une première étape vers une mutation absolutiste, mais enfin voilà, clairement pré-ancien régime en Arabie Saoudite pour moi. Et il y a la Jordanie, il faut quand même dire un mot de la Jordanie. Tu peux nous afficher la carte du Moyen-Orient, que les gens soient un peu perdus. Je pense que les gens connaissent la carte du Moyen-Orient, mais ça fait toujours du bien. Jordanie, je dirais qu'on est... ça ressemble quand même... Alors, j'ai du mal à l'admettre, parce que c'est un peu en plein milieu. C'était longtemps sous domination ottomane, donc c'est bizarre que ce soit passé aussi vite, mais ça a l'air d'être un régime parlementaire qui fonctionne. monarchie constitutionnelle, voilà, un peu comme au Maroc. Donc, c'est pas impossible que ça ait effectivement fonctionné et qu'il soit déjà un État-nation parlementaire, la Jordanie. Ils ont renoncé à la Cisjordanie dans le cadre de leur combat au XXe siècle. Pourquoi pas? Pourquoi pas en être là? Koweït, Émirats arabes unis, Qatar, je laisse de côté. Je n'ai pas envie de m'en occuper ce soir parce que je ne suis pas sûr exactement de savoir où est-ce qu'ils en sont aussi. Les deux morceaux importants, surtout pour savoir où est-ce qu'ils en sont et qu'est-ce qu'ils font, c'est pour moi la Turquie d'une part et Israël d'autre part. Alors, la Turquie, donc. J'en ai parlé l'autre jour en live des souscripteurs, mais pas en public, donc je vais vous expliquer un petit peu ce qui se passe en Turquie d'après moi, où est-ce qu'ils en sont. Je pense que c'est un cas particulier. C'est un cas très particulier, en fait, la Turquie. Parce que si vous regardez la Turquie, elle a très clairement fait sa révolution nationale dans la première moitié du XXe siècle, à peu près en 1908, début de la révolution des jeunes Turcs, et 1950, qui doit être la première alternance politique multipartite. Après la disparition d'Atatürk, donc l'achèvement, ce qui est censé être l'achèvement de la mutation parlementaire. Mais c'est un pays qui, depuis, a connu alors que normalement, du coup, ça aurait dû être un État-nation parlementaire terminé, hein, donc ça aurait dû rester stable. En réalité, il n'a cessé d'aller de coup d'État en coup d'État de l'armée, parce que vous aviez, en fait, une remontée électorale régulière de ce qu'on appellerait l'islamo-conservatisme, en fait, ou du conservatisme islamique, en fait, tout simplement, de l'islam politique, tout simplement, appelons les choses par leur nom, à laquelle le kémalisme était hostile, mais sur laquelle, en fait, et donc l'armée, en fait, servait de couvercle sur la marmite régulièrement, qui se remettait pour empêcher cette émergence, en fait, qui risquait de ramener le pays en arrière. Et finalement, c'est effectivement arrivé avec Erdogan, ce retour en arrière finalement. Et notamment en luttant d'ailleurs contre la laïcité, petite incise, au moyen du droit des femmes à porter le voile, hein, parce que la laïcité est oppressive si elle empêche les femmes de se vêtir comme elles veulent, donc elles devraient avoir le droit de mettre le voile. Donc on arrive à voiler les femmes, et puis du coup vous arrivez à faire monter l'islam politique, et donc en utilisant les armes des droits de l'homme de l'Union européenne, finalement, hein, puisque c'était ça l'idée politiquement, et bien vous arrivez à imposer le fait que vous réislamisez la société. Hein, c'est pour ça qu'aujourd'hui, quand la question se pose en France, il ne faut pas oublier que le port du voile a été une arme d'Erdogan pour arriver au pouvoir. Et quand vous voyez aujourd'hui ce que ça donne, le pouvoir d'Erdogan, avec l'arrestation de son principal opposant, maire d'Istanbul, etc., vous voyez où ça peut mener. Hein. Voilà. Fin de la parenthèse. Donc, qu'est-ce qui s'est passé, en fait? Quel est le cas particulier de la Turquie? Comment ça s'explique tout ça, historiquement? Ben, en fait, on a un cas très particulier avec la Turquie, qui est que elle a multiplié sa population par 7, après sa révolution nationale, ou à partir de sa révolution nationale. Et ça, c'est absolument colossal. C'est-à-dire qu'au moment où la Turquie fait sa révolution nationale, il y a à peu près 13 millions d'habitants sur le territoire turc actuel. Aujourd'hui, il y a 83 ou 84 millions d'habitants sur le territoire turc actuel. Donc ça a été véritablement multiplié, une explosion. Et comme vous vous en doutez, hein, comme d'habitude, la population qui explose, elle explose en général dans la périphérie, hein, qui ensuite vient habiter les villes. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire que quand vous avez... Or, le problème, c'est que les périphéries, traditionnellement, elles sont beaucoup plus conservatrices, beaucoup plus religieuses notamment. Et il faut savoir que peut-être plus qu'ailleurs, la révolution nationale en Turquie s'est faite dans les villes, dans les grandes villes, parce que c'est là que la population était alphabétisée. Le reste de la population était totalement analphabète dans les campagnes. Hein. Vous avez une Turquie qui a fait en fait sa révolution nationale. Il devait y avoir 15% de la population qui était alphabétisée, mais c'était une très grosse proportion dans les grandes villes, et notamment Istanbul. Hein. Et donc forcément, vous avez en fait une révolution qui s'est faite. Alors, dans un pays qui avait un territoire extrêmement inhomogène. Inhomogène, dans le sens où vous aviez en gros des endroits qui étaient beaucoup plus arriérés que d'autres. Vous n'aviez pas une urbanisation homogène, voilà, pour le dire ainsi. Vous avez des pôles, notamment Istanbul, mais ensuite vous aviez des endroits qui étaient essentiellement ruraux. Et ça vous explique ce qui s'est passé pendant tout le 19e siècle, c'est-à-dire qu'à partir du moment où vous aviez un régime qui était démocratique, avec des élections, avec un suffrage étendu, eh bien, forcément, la population, elle, ben, elle votait pour des partis qui étaient islamistes, etc., parce que ça représentait encore leur état d'avancement culturel, c'est-à-dire très attaché, très peu sécularisé, très attaché à la religion traditionnelle, etc. Et là-dessus, vous aviez des élites kémalistes qui étaient les héritières d'une révolution qui avait été faite de manière un peu précoce dans ces villes, et qui essayaient d'empêcher de revenir en arrière et de que la situation se rééquilibre, en fait, entre l'île et la capitale. Et le seul autre exemple où on voit à peu près la même chose, je pense, même si chez nous, ça aurait pu se passer autrement, mais il y a quand même eu un petit accident de l'histoire avec la révolution de 1848, mais c'est assez assimilable dans les fondamentaux, même si je pense que c'était beaucoup plus inéluctable, encore une fois, en Turquie qu'en France, avec le Second Empire, c'est-à-dire avec la montée au pouvoir de Louis-Napoléon Bonaparte, devenu Napoléon III. Napoléon III est arrivé au pouvoir en s'appuyant sur la ruralité française, contre Paris, en fait. Et durant toute sa carrière de dictateur, Napoléon III était soutenu dans les campagnes françaises. Par contre, il avait beaucoup plus de mal dans les villes, en particulier à Paris, qui a toujours été une ville qui était hostile à Napoléon III. Et au moment de la chute du régime, c'est pour ça que vous avez eu notamment la Commune à Paris et que les Versaillais, à leur tour, se sont appuyés sur l'armée française et notamment donc la France rurale, la France paysanne, pour réprimer la Commune de Paris. Donc c'est un peu le même mouvement, si vous voulez, et ça vous explique que quand vous avez un différentiel, quand vous avez des pays comme ça qui sont très hétérogène au plan de l'urbanisation encore. C'est-à-dire que vous avez des grandes zones qui sont très peu peuplées ou peuplées de manière très clairsemée et surtout très rurale, très urbanisée, très périphérique en quelque sorte. C'est beaucoup moins stable que quand vous avez quelque chose qui est très homogène au niveau de l'urbanisation et donc de la culture urbaine. C'est-à-dire qu'en gros, l'Angleterre, elle a fait sa révolution nationale au moment où tout le pays était à peu près au même niveau. Vous aviez partout des petites villes qui avaient grosso modo, le même niveau culturel que Londres, ou à peu près. Alors que la France, vous aviez vraiment des endroits qui étaient vides, d'ailleurs c'est toujours le cas. Vous avez toujours 50% de la population qui vit sur 90% du territoire. Et donc vous aviez une rupture assez nette entre les deux. Ça a favorisé donc Napoléon III. Et encore Napoléon III, il n'y a pas eu de boom démographique au 20e siècle, au 19e siècle en France. On est passé de 30 à 40 millions d'habitants, donc ça restait raisonnable. Pendant que la population britannique explosait, la population allemande aussi. Alors que la Turquie a véritablement explosé. Encore une fois, multiplié par 7 en un siècle, c'est absolument énorme. Et c'est inédit, je ne connais pas d'autres cas d'état-nation parlementaire dont la population a été multipliée par 7, en fait, en un siècle. Et donc, ça vous explique qu'en fait, la population, si vous voulez, l'Erdogan, on est aussi dans un nouvel ancien régime, mais un nouvel ancien régime qui est jeune, en fait. C'est-à-dire, ça serait plutôt comparable à un nouvel ancien régime en phase d'impérialisme initial, pratiquement. Hein, un petit peu comme la France de 14 ou quelque chose comme ça. Donc ça vous explique qu'il y a un impérialisme turc qui existe très clairement dans la culture turque et qui empêche la Turquie d'être véritablement une nation. C'est-à-dire que, comme vous le savez, une nation achevée, elle intériorise ses frontières. C'est-à-dire que ses frontières deviennent une part de son identité. Donc, ça devient très difficile d'y toucher pour les lui restreindre. À ce moment-là, c'est un traumatisme terrifiant qu'on fait à la France qui perd l'Alsace-Lorraine. Mais ça lui enlève aussi toute volonté de les étendre. Hein, puisque sa frontière, c'est là, elle sait que là, c'est chez elle, et derrière, c'est pas chez elle. Donc, à partir du moment où vous avez une frontière qui devient identitaire, c'est quelque chose qui vous empêche d'être impérialiste au-delà de cette frontière, parce que vous estimez que au-delà c'est l'étranger, c'est pas chez vous. Voilà. Donc vous cherchez pas à le conquérir, naturellement. La Turquie clairement n'est pas dans ce stade-là. Le fait d'avoir sa population qui a énormément gonflé et d'avoir ce régime qui s'est installé fait que elle est dans une phase de dynamisme qui fait qu'elle peut chercher à dépasser ses frontières. D'ailleurs, chose très intéressante, je parle de Napoléon III. Napoléon III a rattaché à la France la Savoie et Nice, hein, Et il a même envisagé de reprendre la Belgique, alors que c'est un truc auquel on était censé avoir renoncé depuis 1830, où on avait terminé notre révolution nationale. Ce qui montre que ça, voilà, c'est assimilable à ce qui se passe en Turquie. Donc la Turquie, objet astronomique, qui en dépit du fait qu'elle a fait sa révolution nationale il y a un siècle, eh ben, est revenue en arrière à cause donc de ce phénomène absolument inédit de multiplication de sa population interne. Voilà, ça c'est pour savoir où en est la Turquie. Maintenant, la question de savoir où en est Israël. Question peut-être encore plus épineuse. Alors, vous vous souvenez quand j'avais fait un petit peu la question réflexion astronomique sur Israël, j'avais rappelé que Israël se rattachait à cette catégorie de ce que j'appelais les pays qui avaient fait une révolution indépendantiste. Et donc, j'avais tenté de faire quelques parallèles avec les États-Unis, avec Gênes, avec Venise, etc. Mais ma compréhension du phénomène était encore limitée à l'époque, puisque je pensais que c'était un modèle alternatif au modèle de construction nationale classique. Or, comme vous le savez peut-être, vous le savez certainement si vous avez lu Al-César, si vous m'avez entendu parler d'Al-César, vous le savez un peu. Je pense désormais, et j'en suis sûr, que la révolution indépendantiste, c'est juste quelque chose de. C'est pas quelque chose d'alternatif, c'est un cas particulier de révolution nationale dans laquelle vous avez un État-nation, alors qu'il est en construction, qui va se détacher de la domination d'ailleurs. Ce qui fait qu'aujourd'hui, je dis que les États-Unis sont sur le point d'entrer en phase absolutiste avec Donald Trump, même s'ils ont fait une révolution indépendantiste il y a 200 ans, qui les a laissés au stade féodal d'ailleurs, eux, à l'époque. Donc la question qu'il faut se poser, c'est Israël, où est-ce qu'ils en sont? Alors Israël, en toute logique, c'est difficile de savoir parce que la destinée d'Israël, depuis sa libération son indépendance en 1948, Israël est toujours a toujours une trajectoire nationale qui a subi des interférences de puissances supérieures, en particulier les États-Unis et l'URSS. Et donc c'est assez difficile de savoir ce qu'est Israël aujourd'hui, et surtout, il faut essayer de réfléchir à ce qu'il aurait été s'il n'avait pas été bloqué, corseté finalement, par l'URSS et les États-Unis. Alors, j'ai essayé de faire une petite carte, alors qui est très très discutable, mais c'est pour avoir une matière de réflexion, pour arriver à visualiser quelques trucs. Petite carte, c'est la carte que tu pourrais afficher, Léo, qui montre Israël étendu en bleu, là. Ça fait une vidéo du Moyen-Orient. Ça, c'est une petite carte que j'ai fait l'autre jour. On a discuté sur le canal Telegram, dans laquelle j'ai essayé d'expliquer que si Israël n'avait pas été bloqué par l'URSS et les États-Unis, aurait probablement ressemblé à ça. Pourquoi ? Parce que, grosso modo, en fait, Israël n'a pas été bloqué jusqu'en 1967. 1967, vous savez, la guerre des six jours, guerre préventive lancée contre la Syrie et l'Égypte, qui a permis à Israël de s'installer sur le plateau du Golan d'un côté et de descendre, d'occuper le Sinaï et d'arriver jusqu'à Suez de l'autre pour essayer d'obtenir des frontières naturelles et surtout un avantage géographique sur ces deux frontières face à ses voisins qui tendaient à l'attaquer. Donc si vous voulez, on peut dire que jusqu'en 1967, comme on a laissé, on n'a pas empêché, on n'a pas pu, quand je dis on, c'est les USA et l'URSS, n'ont pas pu empêcher Israël, n'ont pas cherché véritablement à empêcher Israël d'annexer du territoire, on peut considérer qu'à ce moment-là, il n'y a pas eu de blocage d'Israël. La situation a changé avec la guerre du Kippour en 1973. Parce qu'à ce moment-là, l'image mondiale d'Israël a changé précisément. C'est-à-dire que ce qui avait permis à Israël d'opérer ses annexions en 1967, c'est le fait que depuis 1948, Israël avait l'image d'un petit État jeune, faible, pauvre, ce qu'il était, et assiégé par des voisins beaucoup plus nombreux et hostiles. Et donc, il a attiré une certaine sympathie internationale en dehors du monde arabe, bien entendu. Donc, quand en 1967, il y a eu cette action préventive qui a été faite, tout le monde s'est dit grosso modo, bon, en même temps, c'est normal, ils se protègent. Bon. Le problème, c'est que comme ensuite donc, ils ont pris le Sinaï, ils ont pris le Golan, et ils n'ont pas voulu les rendre, ça a changé un peu. C'est-à-dire que tout le monde a vu la puissance sur Israël, sur ses voisins, et tout le monde s'est dit, donc ils ont perdu leur image en fait de petit État faible qu'il faut se défendre. Ils ont acquis à ce moment-là l'image d'un petit État certes, mais sur de lui dominateur, hein, comme disait De Gaulle, c'est-à-dire avec une véritable capacité et une volonté de s'étendre et de s'imposer dans la région. Et donc à partir de là, forcément, quelqu'un qui est capable de s'imposer comme ça attire moins la sollicitude, et à ce moment-là, c'est plutôt ses adversaires qui commencent à attirer la sollicitude, donc c'est probablement à ce moment-là qu'on a commencé à importer, la gauche notamment, a commencé à importer en Occident, notamment en France, le conflit israélo-palestinien, en voyant les Palestiniens comme les faibles, etc. Ce qui n'était pas le cas avant. Donc c'est à partir de ce moment-là, si vous voulez, que l'image des Juifs comme purement persécutés a commencé à s'effacer et que vous avez l'antisionisme qui a commencé à monter. Je ne suis pas là pour parler de ça ce soir, mais c'est intéressant de revoir cette évolution de la perception mondiale et notamment occidentale de l'État d'Israël. C'est-à-dire que tout simplement, quand un type devient capable de, quand le petit devient capable de se défendre, voire de s'imposer à ses voisins, ben vous changez de vision dessus. Et donc en 1973, quand il y a eu la guerre du Kippour, donc guerre d'agression de la Syrie et de l'Égypte contre Israël, Golda Meir a compris tout de suite qu'il n'y aurait pas moyen d'aller aussi loin. Alors que c'était l'occasion, hein. C'était l'occasion, et honnêtement, ils auraient pu. Parce que, on dit, guerre du Kippour, catastrophe, etc., ça a été très dur les premières heures, voire les premiers jours, ça s'est assez vite stabilisé, et assez vite, la puissance israélienne s'est réaffirmée. Et, m'enlève pas la carte, Léo, la puissance israélienne s'est réaffirmée, et donc, vous avez les Israéliens, si l'URSS et les États-Unis étaient restés en dehors de l'affaire, qui n'étaient pas intervenus, les Israéliens auraient mis une énorme branlée à la Syrie et à l'Égypte. Il faut bien comprendre ça. C'est-à-dire qu'ils auraient probablement pu prendre Damas et ils auraient probablement pu aller jusqu'au Caire. Hein. Je ne sais pas s'ils auraient pris, parce que c'était quand même gros, mais enfin, l'assiéger, bombarder, faire ce qu'ils voulaient. Puisqu'ils avaient traversé, le canal de Suez, c'est Ariel Sharon qui, avec ses blindés, avait réussi à traverser le bras de la mer Rouge et donc à tomber sur les arrières égyptiennes. Donc ça allait se terminer en déroute. Hein. Si l'armée égyptienne, la fierté égyptienne retrouvée a pu être maintenue comme image, c'est parce que les Soviétiques et les Américains ont arrêté Israël. Sinon, l'Égypte aurait été complètement détruite. L'armée égyptienne aurait été détruite. Et donc à partir de là, vous sortez de l'histoire, de la trajectoire, on va dire, normale, spontané, logique d'Israël pour entrer dans une trajectoire modifiée par l'intervention de puissances extérieures. Vous sortez de la pure règle historionomique interne d'Israël par rapport à son environnement pour prendre en compte des perturbations extérieures extrêmement importantes qui viennent notamment de la différence d'échelle tout simplement entre les USA, l'URSS et Israël. Donc à partir du moment où Israël est bloqué, donc par la suite, comme l'Égypte ne sera pas véritablement vaincue, il y aura besoin d'une négociation. Dans le cadre de cette négociation, Israël restituera le Sinaï pour avoir la paix avec l'Égypte. Si Israël avait pu mettre une branlée totale à l'Égypte, ils n'auraient probablement jamais rendu le Sinaï. Ils auraient peut-être même fait comme lors de la précédente guerre, ils se seraient peut-être étendus sur une partie du territoire égyptien qu'ils auraient occupé. Donc là, ils auraient eu quoi ? Suez, Port Saïd, Damiette, c'est ça qu'ils auraient eu comme ville s'ils avaient tenu ça. S'ils avaient pu marcher jusqu'à Damas, ben, il n'est pas du tout impossible qu'ils n'auraient pas occupé le sud de la Syrie, voire le Liban à l'époque, pour éviter que la Syrie s'en occupe. Puisque je rappelle que les premiers projets sionistes qui ont été mis en place en 1919, il était question que, grosso modo, l'État d'Israël, ce soit tout l'Israël actuel, plus la Jordanie, plus le Liban. Grosso modo, c'était ça. Donc ça, on serait arrivé à quelque chose comme ça. Alors la Jordanie, j'ai mis la Jordanie, c'est contestable peut-être parce qu'il n'y avait pas de guerre et puis déjà les relations évoluaient plus dans le bon sens avec la Jordanie qu'avec la Syrie et l'Égypte qui étaient carrément hostiles. La Jordanie ne s'était pas jointe attaques. Elle avait envoyé ensuite des troupes en Syrie quand Israël commençait à avancer trop, mais c'était plus pour éviter l'effondrement de la Syrie que pour se battre contre Israël. Donc clairement, la Jordanie n'était pas là-dedans. Donc peut-être que, bon, si vous enlevez, vous pouvez éventuellement oublier la Jordanie, enlever la Jordanie de ce pâté bleu que j'ai fait, mais ça, c'est juste pour vous donner l'image. Si simplement la puissance brute d'Israël s'est exprimée et qu'il n'y avait pas eu les USA, qu'il n'y avait pas eu l'URSS, probablement qu'Israël aurait conquis quelque chose comme ça. Voilà, ce serait imposé sur cet ensemble-là. L'aurait conquis, aurait fait des états vassaux, tout ça, probablement plusieurs différents modes de domination. Mais ça vous aurait donné, en fait, grosso modo, ce qu'a été, pareil, ça aurait été assimilable à ce qu'a été le premier siècle de l'histoire américaine, encore une fois. Après l'indépendance, eh ben, ils conquièrent tout le territoire naturel des États-Unis. Il y a la guerre de sécession avec, et ils conquièrent en fait carrément les États du Sud. Ils prennent des morceaux de Mexique, etc. Des terres sur les Amérindiens. Donc là aussi, vous avez des populations très diverses qu'il a fallu mettre sous un seul pouvoir, qui était le pouvoir Yankee en fait aux États-Unis. Là, ça aurait été pareil avec le pouvoir d'Israël. Ça aurait créé une espèce de koinon, hein, comme aime bien dire Antoine, pour reprendre la formule grecque, c'est-à-dire d'ensemble, de ligue, si vous voulez, d'État ou de quasi-État sous autorité israélienne. Alors cet ensemble-là, il aurait peut-être été occupé par Israël dans un premier temps, mais ça aurait été compliqué à occuper. Donc ça aurait pu prendre la forme de la mise en place justement d'un koinon, c'est-à-dire par exemple d'une sorte de confession qui aurait été pilotée par Israël, un petit peu comme la Hollande, si vous voulez, pilotait les provinces unies. Les provinces unies, c'était un ensemble de provinces qui étaient nommément souveraines, mais en réalité l'ensemble était dominé par la Hollande, qui était la plus riche et la plus puissante des provinces. Donc Israël aurait pu mettre en place en fait quelque chose comme ça. Vous auriez aujourd'hui un ensemble qui représenterait à peu près 45 millions d'habitants, qui serait contrôlé par Israël et qui naturellement serait très hétérogène en interne, puisque vous auriez déjà l'hétérogénéité interne d'Israël, hein, qui est peuplée de juifs, qui est peuplée d'arabes, qui est peuplée de druzes, mais les juifs eux-mêmes, ce sont des juifs originaires d'Europe orientale, ce sont des juifs originaires du Maghreb, ce sont des juifs originaires de l'Orient. Donc forcément, c'est des cultures qui sont différentes et qui représentent une certaine hétérogénéité, tout comme les États-Unis du 19e siècle étaient hétérogènes, puisqu'ils assemblaient sur leur propre territoire une population qui était aussi diverse que celle de l'ensemble de l'Europe occidentale, puisque leur population venait justement d'Allemagne, d'Angleterre, d'Irlande, etc., donc d'Italie. Donc c'était forcément des populations très diverses. Est très hétérogène. Et comme vous le savez, la construction nationale, ça passe par un mouvement d'homogénéisation de populations hétérogènes. Donc aujourd'hui, si ça avait été le cas, en fait, aujourd'hui, Israël serait dans un état similaire à ce qui était celui des États-Unis au début du XXe siècle, c'est-à-dire en grosso modo à l'époque de Teddy Roosevelt, c'est-à-dire la future entrée dans la phase oligarchique. En quoi ça aurait consisté? Ben, ça aurait consisté, pour cette confédération sous autorité israélienne, en mise en place peut-être d'un commandement centralisé des forces armées pour cet ensemble, avec l'autorisation d'avoir des forces armées pour certains États confédérés, mais le tout sous commandement israélien, en fait. Et peut-être probablement une finance commune avec des impôts, enfin un truc comme ça, c'est-à-dire l'embryon d'un État confédéral et probablement devenu État fédéral. Et donc à ce moment-là, on serait aujourd'hui avec un Israël qui entrerait en phase oligarchique. Mais, comme vous le savez, ce n'est pas ce qui s'est passé, ça. Ça, c'est ce qui se serait passé si, comme l'Atlantide, l'URSS et les USA avaient disparu sous les océans en 1970. Bon, ça n'a pas été le cas. Alors, qu'est-ce qui se passe aujourd'hui? Ben, vous avez un Israël qui a été contraint de rester dans des frontières beaucoup plus restreintes, donc qui ne s'est pas hétérogénéisé comme il aurait dû le faire, comme il aurait pu le faire, en rassemblant sous sa coupe des populations très importantes et très différentes. Au contraire, Israël, donc, est resté... Il a continué à recevoir une immigration, notamment des Juifs venant un peu partout. Il a quand même récupéré donc les populations druzes, etc. Mais c'est pas allé plus loin que ça. Et donc, on peut se poser la question de savoir si ce corsetage a été mis en place par les grandes puissances sur Israël, non pas favoriser une homogénéisation accélérée. En l'obligeant, en l'empêchant de s'étendre, ben finalement, ça a limité l'apport extérieur de population, et donc ça a peut-être favorisé le renforcement de la nature et de l'identité d'État juif d'Israël. Il faut bien comprendre ça, parce que malgré tout, l'État juif israélien, 1973, il était très très jeune, il avait une génération. Aujourd'hui, on en entre quoi dans la quatrième génération d'Israéliens, et ces Israéliens ont connu trois générations peu ou prou dans les frontières actuelles, et avec un renforcement considérable de l'identité d'État juif, d'État juif israélien, opposé ou par opposition à des pays arabes voisins. Alors que si, dès la première génération, donc dès 1973, il avait commencé à confédérer des pays arabes voisins autour, probablement que cette identité purement juive se serait beaucoup moins affirmée. Ça se serait dilué, je pense, plus rapidement dans l'ensemble. Donc il n'est pas impossible qu'aujourd'hui Israël soit déjà, peut-être, et avec le pouvoir, avec les boires de Netanyahou, avec son appareil d'État, avec le Shin Bet notamment, dont il a viré le patron dernièrement, avec ses problèmes avec la justice, tout ça, est-ce qu'on n'est pas dans quelque chose qui ressemble à la mise en place d'un absolutisme en Israël? Ça m'est difficile à dire, très honnêtement. Parce que encore une fois, on est sur une contradiction un petit peu dans la façon dont les choses auraient dû se passer. Et c'est toujours difficile de savoir exactement ce que ça change au final. Mais, il y a cependant une chose qui, je crois, ne change pas. Et c'est une chose que j'ai dit depuis... ça fait toujours rigoler, mais... moi le premier, d'ailleurs. Mais je suis attaché à cette formulation parce qu'elle est vraie. Je pense qu'à terme, Israël doit devenir un État arabe comme les autres. Alors, il le serait peut-être devenu plus vite s'il s'était passé ce que je viens de dire, mais ça n'est pas arrivé. Et donc, je pense que ça arrivera. Pourquoi? Parce que on a un État d'Israël qui est en phase de normalisation croissante avec tous ses voisins. C'est le cas depuis longtemps avec l'Égypte, avec la Jordanie aussi. On va vers ça avec l'Arabie Saoudite, ça va être un pas très très important et vraisemblablement ça va se faire avec Ben Salman, qui lui-même représente un stade de sécularisation qui correspond souvent à la mise en place de l'absolutisme, donc ce serait pas absurde ce que je disais tout à l'heure qu'on soit dans la phase absolutiste en Arabie Saoudite avec Ben Salman. Ça veut dire aussi sécularisation. Ça veut dire aussi, je l'ai déjà dit plein de fois, mais que pour moi l'islam, dans 50 ans il n'y en aura plus, ils évendent, mais disons que on est vraiment sur la fin de l'islam comme religion dynamique. Comme je l'ai déjà dit plein de fois, le salafisme, c'est-à-dire le retour à la recherche de la pureté originelle, en fait, c'est le protestantisme musulman. Et on trouvait la même chose avec le pharisaïsme dans la religion mosaïque, donc le judaïsme antique. Et en fait, c'est le début de la fin de la séquence, c'est la dernière séquence dans un grand monothéisme politique comme ça. C'est l'antichambre de la sécularisation, en fait. Et donc, ce qui va se passer, c'est que, c'est déjà le cas dans un certain nombre de pays arabes autour, c'est que la religion va avoir en réalité de moins en moins d'importance, passer cette pulsion salafiste qui existe encore, mais même dans les frères musulmans. Mais les frères musulmans, ça relève de ça. Ça relève déjà de cette sécularisation de la religion. Et donc, l'issue, c'est finalement l'arrivée de sociétés qui seraient beaucoup plus sécularisées, moins religieuses. Et naturellement, si vous enlevez ce problème religieux, vous enlevez une bonne partie du problème de la lutte contre Israël. Il y a une autre chose importante, c'est que Israël s'est heurté en fait au panarabisme. En fait, le problème d'Israël, je l'avais dit quand j'avais fait l'émission sur la Syrie, L'État d'Israël, en fait, le nationalisme juif est arrivé en même temps que le nationalisme arabe. Donc vous aviez aussi un nationalisme arabe sur la même terre au même moment, donc forcément ça ne pouvait pas bien se passer. Mais c'était le nationalisme pan-arabe. Le nationalisme pan-arabe, c'était encore autre chose. On en est un petit peu sorti maintenant. On est sur du nationalisme local. C'est-à-dire vous aurez un nationalisme égyptien, vous aurez probablement un nationalisme saoudien, un nationalisme syrien, un nationalisme irakien, un nationalisme libanais. Donc ce sont des nationalismes locaux. Et à partir du moment où vous arrivez au nationalisme locaux, vous pouvez déjà apercevoir au loin le dépassement du nationalisme local et l'idée d'entité de confédération supérieure. Typiquement, encore une fois, hein, qui aurait dit que, alors qu'on s'entretuait au nom du nationalisme, alors c'est très court comme explication et en réalité est très très critiquable, mais il y avait quand même, c'est l'époque des nationalismes néanmoins, parce que vous avez tout simplement tout un tas de pays qui arrivaient à faire la révolution nationale au même moment, c'était ça la réalité, hein, mais à la maturité nationale en fait. Mais au moment où vous observiez le nationalisme maximum en Europe, on va dire, c'est-à-dire au début du XXe siècle, et où vous aviez la grande, à tel point que ça débouchait sur la Grande Guerre, qui aurait dit que 50 ans après, même pas, vous auriez le traité de Rome, hein, avec la naissance de l'Europe politique. Moi, c'est l'avenir que j'entrevois pour cette région-là. Aujourd'hui, tu pourras afficher la carte générale du Moyen-Orient, s'il te plaît, Léo. L'avenir que j'entrevois pour cette région-là, je vous disais au tout début en introduction, on risque d'aller, ça ressemble à ce qui se passait à la veille de la Grande Guerre, et j'en suis toujours sûr. À l'issue, à quelques décennies, c'est que vous allez avoir une recomposition, l'effacement de certains nationalismes au profit de nouvelles configurations politiques. Et en particulier le fait que vous ayez un Irak, une Syrie qui soit sur le point de terminer la révolution nationale. L'Arabie Saoudite, c'est plus compliqué, mais une Jordanie où c'est vraisemblablement terminé. Vous pourriez avoir la fusion. C'est-à-dire qu'en fait, vous arrivez à une situation où vous aurez des entités politiques qui ont terminé leur parcours d'État-nation, donc qui sont des États-nations achevés et qui donc, peuvent donc aller ensuite vers la post-nationalité. Et vous avez des États-nations en construction et qui sont donc dans la pré-nationalité encore. Et c'est probablement encore le cas d'Israël, malgré tout. Et donc tout ceci est de nature à laisser un espace à une forme de confédération. Confédération type Union européenne, quoi. Et ça serait favorisé par le fait qu'une fois qu'Israël aura normalisé ses relations, il y aura des échanges qui seront accrus avec les pays voisins. Donc forcément, ça rapproche, comme on a fait en Europe finalement, même entre la France et l'Allemagne. Et puis en plus, vous avez une mentalité qui est différente. C'est-à-dire que il y avait un côté quand même avec Israël, c'était l'idée seule démocratie du Moyen-Orient, etc. Donc on assimilait plutôt Israël à une démocratie à l'européenne, en fait. Ce qui n'était pas en réalité, puisque c'était un État très jeune, et donc c'était pas un État parlementaire achevé, c'était un État encore en construction. Mais avec des institutions qui ressemblaient effectivement à ce que montre un État-nation parlementaire. Donc la réalité, c'est que vous allez avoir une convergence entre un pouvoir israélien qui va probablement dégénérer vers quelque chose de plus autoritaire et ce qui est le pouvoir traditionnel, on va dire, en tout cas ce qui est plutôt visible autour dans le monde arabe. Donc vous allez avoir quelque part cette convergence et donc ça va effacer énormément de tensions, surtout qu'on va probablement avoir, d'une manière ou d'une autre, plutôt propre ou plutôt crade, ça je ne peux pas dire, une liquidation du problème palestinien dans les mois ou les années qui viennent. Il en est de plus en plus question, soit de déportation d'une partie de la population, de reconstruction autrement, enfin, ça peut prendre tout un tas de formes différentes, mais vraisemblablement qu'une fois que je pense que le Hamas va être définitivement détruit, je pense que ça va arriver. Surtout que, encore une fois, de toute façon, s'il n'est pas détruit là, militairement par Israël, dans les années qui viennent, vous avez le régime des mollahs iraniens qui va tomber. Et vous vous retrouverez probablement avec un nouveau régime iranien qui sera assez similaire dans son positionnement international à ce qu'était l'Iran d'avant, c'est-à-dire un pays qui tend plutôt à essayer de ressembler aux Occidentaux, ne serait-ce que parce que c'est un état de très vieille civilisation, la Perse, qui se distingue quand même du reste du monde arabe. Qui était à l'époque un allié d'Israël, Donc je pense qu'en tout cas, il serait à tout moins pas hostile à Israël. Qui dit pas hostile à Israël dit qu'il ne finance pas le Hamas aussi, et qu'il ne finance pas le Hezbollah. Et donc forcément, ça enlève, le jour où vous avez l'Iran qui tombe, ça enlève un certain nombre de points de friction hostiles à Israël. Alors, en grande partie, ça a déjà commencé. Hein, le Hamas était considérablement affaibli, le Hezbollah aussi. Donc on voit déjà vers quoi ça peut évoluer tout ça. Et une fois que ces problèmes s'estomperont, ben ça fera sauter un certain nombre de barrières dans la capacité d'Israël à s'entendre et à éventuellement former justement une sorte de koinon, de confédération avec ses voisins. Alors naturellement, ça ne se fera pas tout seul, parce que ce sont des États qui conservent une identité autonome profonde. Mais qu'est-ce qui pourrait pousser ces États justement à se rassembler ? Ben, précisément, ce qui pourrait pousser ces États à se rassembler, à essayer de former une confédération, c'est la même chose qui a poussé les Européens à essayer de former une confédération, à se rassembler, c'est-à-dire le fait de se trouver face à une menace beaucoup plus puissante qu'eux, individuellement, et qui impose qu'ils s'unissent. Et cette menace, naturellement, c'est, Léo, si tu peux nous afficher la carte de la Turquie de demain, qui était présente dans l'Atlas du siècle à venir. L'avenir d'une bonne partie du Moyen-Orient, pire pan-turc, dont je parlais dans l'Atlas des guerres à venir, qui, avec l'effondrement de la Russie d'une part et de la Chine d'autre part, au terme de la confrontation géostratégique mondiale qui a déjà commencé, vous vous retrouverez avec un espace centre-asiatique qui est turcophone, où il n'y aura plus d'obstacle à l'expansion turque, puisqu'il n'y aura plus les Russes, il n'y aura plus les Chinois. Et donc, la Turquie, qui essaie déjà de s'étendre dans cette direction, pourra donner libre cours à son expansionnisme, via l'Azerbaïdjan notamment, en obtenant un corridor à travers l'Arménie, que l'Azerbaïdjan essaie toujours d'obtenir, malgré les négociations de paix. Donc vous auriez une continuité territoriale. Probablement que, alors encore une fois, ça dépendra de comment se terminera la guerre. Si la Turquie a un rôle majeur dans la guerre conventionnelle et qu'elle se déploie dans cette direction dans le cadre de la guerre entre l'OTAN et la Russie, eh ben on sera un peu dans la configuration URSS 1945. Je tiens les pays du futur pacte de Varsovie, je refuse de me retirer, et ça devient mon empire. Soit on se retrouvera dans une situation qui est plutôt la Prusse 1815, c'est-à-dire un État qui a considérablement gagné en puissance et donc en influence sur l'ensemble du monde germanique, mais qui ne peut pas encore s'imposer et qui devra attendre quelques décennies et un long travail de politique pour arriver finalement, pendant les années Bismarck, c'est-à-dire entre 1860 et 1870, à faire son unité sous commandement prussien. Et donc la Turquie sera un petit peu la Prusse, si vous voulez, de cet espace turc. Mais la Turquie ne cherche pas à aller uniquement en direction de Turquie. Elle a aussi des ambitions néo-ottomanes et sunnites, finalement, en direction de la Syrie et de l'Irak. Je vous l'ai dit au début, encore une fois, c'est quelque chose qui est déjà envisagé. Et donc, ça, en fait, ce qu'on est en train de voir en Irak et en Syrie, c'est la suite de ça. C'est-à-dire, c'est ça qui est en train de se concrétiser pour la partie croissant fertile, on va dire. C'est-à-dire le déploiement des ambitions turques dans cette direction, et notamment la prise de la Syrie. La Syrie, en fait, est effectivement de plus en plus déjà dans les mains de la Turquie. Et Jolani a d'autant plus besoin de la Turquie pour arriver à s'imposer définitivement aux Kurdes de Syrie et pour arriver aussi à tenir, on va dire, l'ensemble. Parce que les massacres d'Alaouites qui ont eu lieu, apparemment, c'était notamment lié à des milices qui, à la base, étaient plutôt rivales du HTS d'Al-Shara, mais qui sont assez directement pilotées par la Turquie. Donc c'est peut-être un coup fait par la Turquie pour appuyer son influence en Syrie. Mais il y a une autre chose, c'est qu'il y a un petit peu côté double jeu ou double dynamique. La Syrie de Jolani. Donc Jolani, c'est, alors moi je suis isolé, je l'appelle toujours Jolani parce que je trouve que c'est un meilleur nom. Al-Shara, c'est enfin bon, Al-Shara si vous voulez, c'est comme Bonaparte et Napoléon. Al-Shara, c'est l'impérialiste revanchard syrien. Clairement, encore une fois, donc je vous ai dit, ça dépend de sa masse stratégique relative. S'il n'a peut compter que sur la masse propre de la Syrie, naturellement, il ne peut pas aller très loin. Il ne peut pas conquérir des morceaux de Turquie, par exemple, etc. Ça, c'est pas possible. En revanche, et il peut difficilement aller défier Israël, naturellement, qui a détruit une bonne partie du potentiel de l'armée syrienne qu'il n'a pas pu récupérer. Par contre, s'il, derrière lui, il a toute la puissance turque qui est mise à son service et à son soutien, pour l'aider à avancer, naturellement, sa force, la force de l'aide syrienne actuelle est quasiment décuplée, quoi. Et donc, il se met à avoir les moyens d'être un impérialiste revanchard, tout en étant tenu par la Turquie, ce qui ferait de lui une sorte d'impérialiste revanchard fauné, en fait, pour les ambitions de l'impérialisme initial d'Erdogan, en fait. Et c'est tout à fait possible, et il pourrait, et ça inquiète d'ailleurs les Irakiens, qui pensent qu'il pourrait. Il pourrait tenter, par exemple, d'utiliser les résidus de l'État islamique contre l'Irak pour conquérir une partie du territoire irakien, par exemple. Ça serait assez typiquement impérialiste revanchard, ça, que donc les sunnites syriens essaient de conquérir toute la partie sunnite de l'Irak, par exemple. Jusqu'à Tikrit, tout ça, ça serait assez, assez intéressant, et même au-delà. Et il pourrait être en cela soutenu par la Turquie. Dans cette ambition. Je pense que la Turquie ferait ça si elle ne parvenait pas à s'imposer autrement sur l'Irak. Je pense que d'abord, elle cherche à s'imposer directement sur l'Irak, mais en même temps, elle pourrait le faire, elle aurait cette version alternative et militarisée, si vous voulez, en aidant Jolani, tout en expliquant que ce n'est pas elle, forcément, qui va dans ce sens-là. Elle pourrait aussi simplement jouer les deux en même temps, c'est-à-dire à la fois sa domination économique à l'Irak, et en même temps dire à l'Irak « Écoutez, je suis votre meilleur rempart contre les ambitions de la Syrie d'Al-Shara, puisque c'est moi qui le tiens, donc si vous êtes à moi aussi, je serai un bien meilleur protecteur que l'Iran. » Donc vous avez tout un tas de leviers comme ça qui se mettent en place et qui font que, très clairement, la Turquie a énormément de cartes et est très avantagée dans cette lutte-là, surtout que, et c'est pour ça que j'avais fait ça dans sur cette carte-là, même si j'avais un peu arrondi, disons, en coupant peut-être un gros morceau de l'Iran, mais c'était pour pas que la frontière arrive sur la Caspienne. Je pense que les Turcs chercheraient à contrôler le maximum de territoire, mais il faut bien s'en rendre. Et puis bon, vous avez aussi des turcophones dans le nord de l'Iran, mais vous avez déjà tous les Azéris du nord-est de l'Iran, c'est-à-dire juste la partie au sud de l'Azerbaïdjan, qui sont turcophones, ces Azéris, ces populations, c'est une population, c'est des cousinades, tout ça, si vous voulez. Et les Iraniens ont déjà très peur que les Turcs les agitent contre le pouvoir iranien. Ils ont également peur que les Turcs agitent les sunnites contre le pouvoir iranien. Et donc, il y aurait cette double identité turco-sunnite, si vous voulez, que les Turcs pourraient activer et qui leur permettrait de gagner du terrain sur l'Iran. Et on est là où je suis sûr que les Turcs vont progresser sans cesse là-dessus, c'est que je vous ai dit, ils ont les cartes. Économiquement, la Turquie doit peser pratiquement deux fois le poids de l'Iran, tout en ayant la même population. Renforcer de la domination sur la Syrie et sur l'Irak en arrachant ses états vassaux à l'Iran, ben forcément, elle rétablit ça vous fait un bloc de 130 millions de personnes à peu près. Donc, naturellement, ça rétablit, ça fait basculer la balance de pouvoir du côté turc. Et en plus, encore une fois, le régime des mollahs va tomber. Et donc, quand le régime des mollahs va tomber, souvent, quand un régime national comme ça, d'ancien régime s'effondre, il a tendance à perdre des morceaux de territoire. Et donc, il pourrait perdre toute cette ce nord-ouest azéri qui passerait là aussi sous d'une manière ou d'une autre. Ça pourrait créer un état fantoche Azerbaïdjan bis, si vous voulez, sous contrôle turc, qui entrerait là aussi dans la confédération pan-turque. Mais ça, vraisemblablement, ça va arriver parce que naturellement, si le régime des mollahs s'effondre et donc l'Iran bascule dans une nouvelle révolution nationale, ne pouvait pas croire que Erdogan ne va pas en profiter pour essayer de démembrer l'Iran et d'en récupérer un morceau, assez clairement. Donc je pense qu'il le fera, je pense qu'il aura cette occasion-là et que ça fonctionnera, et donc ça nourrit encore l'hypothèse de cet empire panturc que j'avais mentionné donc dans ça de 2017. J'y crois plus que jamais. J'y crois plus que jamais. Et la question, c'est ce que ça va provoquer en face. Puisque, du coup, vous vous trouvez avec des Israéliens et des Arabes qui savent déjà ça. Ils le savent. En 2020, vous avez le patron du Mossad, le chef du Mossad, Yossi Cohen. C'est en août 2020, apparemment, il a fait une déclaration à ses homologues saoudiens, égyptiens et émiratis, et a dit que la Turquie était une nouvelle menace pour la paix dans la région, et identifié notamment des alliés dont la Turquie pourrait bénéficier d'un soutien, l'Azerbaïdjan, le Qatar aussi, bien sûr, le Qatar qu'il faut ajouter à ça. Et de leur côté, donc, l'Arabie Saoudite, Israël, l'Égypte et les Émirats Arabes Unis considèrent que l'expansionnisme turc est un nouveau danger pour le Moyen-Orient. C'est le cas depuis 2018, notamment parce qu'ils ont vu les Turcs intervenir en Libye, en Syrie, en Irak, etc., même au Soudan, et même essayer d'aller en direction de la Somalie maintenant. Donc, clairement, il y a un expansionnisme tous azimuts de la Turquie dans ce sens-là. Et vous aviez des articles comme ça qui étaient parus en 2020 qui disaient le Mossad pense désormais que la Turquie est la plus grande menace, et même une plus grande menace que l'Iran, et c'est vrai qu'à long terme, assez clairement, c'est clairement le cas. Et donc, tout ceci, ça va créer une puissance extraordinaire qui serait cette puissance turque, hein, une espèce de nouvelle URSS turco-islamiste au cœur de l'Europe, et qui enfoncerait une espèce de coin comme ça au cœur de l'Eurasie. Et on ne peut pas penser que les États de la péninsule arabique en face resteront totalement désunis. Une telle menace risque assez fortement de créer une dynamique, de les pousser à s'unir entre eux, à se coordonner à tout le moins, et peut-être à mettre en place, par exemple, une sorte d'OTAN, d'OTAN arabo-israélienne, l'OTAN des Arabes comme les autres, si vous voulez dire les pays arabes et Israël tous ensemble. Alors je vous ai fait une autre petite carte, c'est l'autre carte qui montre Léo, l'Empire panturc, et ensuite l'Arabie Saoudite en bleu, tout ça, tu vois, voilà. Donc petit zoom sur ce flanc sud du futur empire panturc, et la question que ça pourrait donner. Et donc j'ai essayé d'imaginer ce que ça donnerait, cette espèce de, par exemple, d'OTAN anti-panturc. Vous pourriez mettre dedans Israël, la Jordanie, et l'Arabie Saoudite, à tout le moins. Avec comme pays, ça serait grosso modo le koinon, quoi, hein, le cœur du truc, une espèce de peut-être d'alliance tripartite les premiers concernés, puisque c'est ceux qui risqueraient d'être frontaliers avec cet empire panturc. Et en arrière, vous auriez les puissances, on va dire, en second rideau, qui seraient pas forcément aussi intégrés, mais qui seraient probablement des alliés, et notamment d'un côté l'Égypte, qui, selon toute logique, devrait finir par faire sa mutation démocratique, enfin parlementaire, dans les décennies qui viennent, après Al-Sisi, et puis bien sûr les Émirats Arabes Unis, Oman, et peut-être le Yémen d'après les Houthis et d'après l'effondrement de l'Iran. Peut-être que l'Iran, d'ailleurs, le nouvel Iran ou ce qui resterait de l'Iran serait aussi allié de cet espace-là, mais il serait plutôt en bleu clair qu'en bleu foncé dans ce cas-là, parce que ça ne pourrait pas être un membre du Koinon, selon moi. Parce que le côté Koinon, si vous voulez, il faut quand même qu'il y ait une forme de proximité géographico-culturelle. Et je pense que cette proximité va si vous voulez, via la Jordanie, qui est un petit peu un pont entre Israël et qui sera de plus en plus un pont entre Israël et l'Arabie Saoudite, je pense que vous aurez un développement de relations comme ça. Donc vous avez ensuite la carte de l'Empire Panturc telle que je l'ai toujours gardée, et ce que j'ai assuré en fait, c'est ce qui sera probablement le territoire disputé qui pourrait basculer d'un côté ou de l'autre. Et vous avez donc dedans, vous avez le Liban, vous avez probablement un morceau, ouais, j'aurais pu rajouter le littoral, parce que là je ne l'ai pas mis, mais le littoral de l'attaquer, c'est-à-dire le littoral alaouite en Syrie, la région jusqu'à Damas, en fait, qui est l'espace qu'Israël aurait pu conquérir en 73. Et puis vous auriez bien sûr donc le sud de la Syrie et peut-être aussi une partie du sud de l'Irak, voilà, jusqu'au Koweït. Le Qatar vraisemblablement resterait pro-turc. Je vois pas trop quelle raison il aurait de changer actuellement, mais ça pourrait être le cas. Et en tout cas, ça serait probablement. Je pense que là, vous avez devant vous le destin du Moyen-Orient pour les 50 prochaines années. C'est-à-dire la mise en place de cet empire panturc, équivalent de ce qu'a été l'URSS dans l'Europe après 1945. Au sud, l'équivalent de ce qu'a été l'Europe de l'Ouest après 1945, avec un noyau dur qui a commencé rapidement à se confédérer, hein, la Confédération du charbon et de l'acier, si vous voulez, hein. Communauté européenne du charbon et de l'acier, ça peut être l'équivalent de donc Israël, Jordanie, Arabie Saoudite, ce serait du pétrole et de je sais pas quoi, qui forme le noyau de quelque chose d'un petit peu plus large après, qui peut s'élargir pour y avoir un élargissement vers l'Égypte, les Émirats Arabes Unis, etc., et qui connaîtrait finalement une évolution un petit peu façon Union européenne, contrainte et forcée parce que c'est vrai que localement, en fait, tout cet espace moyen-oriental, si vous y réfléchissez, est resté extraordinairement morcelé, éclaté depuis 50 ans, alors qu'ailleurs, des blocs apparaissaient, malgré tout. L'apparition de l'URSS et des États-Unis et de la Chine ont contraint l'Europe à faire son unification, mais le Moyen-Orient est resté très éclaté. Pourquoi ? Avec uniquement des jeux de grandes puissances, ben parce que c'était un peu au barycentre de grandes puissances, justement, qui s'entrechoquaient. Vous aviez la Chine, vous aviez la Russie, etc. Donc tout cet espace-là, tout le monde avait intérêt à ce qu'il reste divisé. À partir du moment où vous aurez, qui apparaîtra, une superpuissance locale, c'est l'Empire panturc, forcément, ça amène par contre-coup les autres à sortir de cette division et à se réunir. Et donc voilà, je pense que les 50 prochaines années du Moyen-Orient, ça sera quelque chose comme ça. Et ce qui va amener là, ce sont les choses qu'on est en train de voir se passer. Ça a commencé d'une certaine manière le 7 octobre. Je pense que l'histoire retiendra le 7 octobre comme la date du début de ça. Je vous avais déjà fait un parallèle il y a quelques mois avec la veille de la Première Guerre mondiale, justement, avec cette histoire de Gaza qui ressemble un petit peu aux luttes picrocolines sur des petits territoires qui étaient les Balkans, mais qui ont fini par attirer tout le monde. Et assez clairement, donc, le basculement de la Syrie, en l'occurrence, a entraîné une recomposition, mais qui était déjà là, en fait, qui était en germe, parce que la Turquie montait en puissance, parce que l'Iran déclinait relativement. Et donc, pour toutes les raisons que je vous ai dites et exposées et racontées, je pense qu'on va aller vers cette reconfiguration du Moyen-Orient dans les décennies qui viennent, et en particulier que, grosso modo, l'essentiel sera visible, en fait, dès l'issue de la confrontation géostratégique qui va avoir lieu. Mais ce qui veut dire que, entre-temps, c'est-à-dire dans les mois, les années qui viennent, le volet moyen-oriental de cette confrontation, déjà, ça va être la progression de la Turquie dans cet espace et face à l'Iran. Et ça ira d'autant plus vite si la défaite du régime iranien, pour ça d'ailleurs que peut-être il faudrait se méfier à ne pas leur taper dessus trop vite, pour ne pas trop favoriser les Turcs, puisque vous savez qu'on voit des B2 s'accumuler à la base de Diego Garcia dans l'océan Indien, qui sera la base de départ s'il doit y avoir des frappes importantes contre l'Iran justement. si jamais Donald Trump décidait de se lancer, je crois qu'il a laissé 2 mois aux Iraniens pour se prononcer, pour revenir à la table des négociations, ou pour trouver un accord sur le nucléaire, sans quoi il taperait. S'il commence à taper et qu'il détruit finalement l'appareil militaire iranien, au moins des forces des gardiens de la révolution, vous aurez un effondrement du régime des mollahs, et ça ouvrira la voie à l'expansionnisme turc d'une manière assez affolante, je pense. Voilà ce que je voulais vous expliquer ce soir sur tout ceci. Est-ce que nous avons eu des questions, dont mon cher Léo?
Alors, question dont je ne pense pas. Enfin, si, on va avoir une question chouard. Mais d'abord, don de Thomas, qui nous dit un conflit turco-israélien peut-il arriver alors que la Turquie est dans l'OTAN? Cela déclencherait l'article 5 ou balancerait-il la Turquie dans le camp sino-russe? Bisous à Guillaume et Denis. PS, Léo Ghibli est beau, mais moins que le vrai Léo. Bisous.
Je vois qu'il m'a dit aussi, ah, on dit Israël et pas Israël. Oui, mais ça, c'est Toulouse. C'est avec l'accent du sud-ouest, on dit Israël.
Du sud-ouest.
C'est comme on dit les États-Unis. Voilà. C'est les États-Unis et Israël.
Ou les LR.
Voilà, les LR, tout à fait. Je ne sais pas comment on parle au sud-ouest d'Israël, mais voilà comment je fais. Alors, ça pourrait arriver. Naturellement, ça ne déclencherait pas l'article 5, parce que pour déclencher l'article 5, il faut une unanimité. Donc, peut-être que la Turquie essaierait de déclencher l'article 5. En fait, tout ce que ça ferait, c'est que ça mettrait encore plus le bordel dans l'OTAN. Ça affaiblirait donc la cohésion de l'OTAN et ça ouvrirait encore plus d'espace aux Russes pour agir avec l'idée que ben, la Turquie, une Turquie qui ne serait pas défendue par l'OTAN, c'est-à-dire, mettons, une Turquie qui se considérerait attaquée par Israël, qui dirait « je suis attaqué par Israël, j'invoque l'article 5 ». Les pays européens lui diraient « tu vas te faire foutre, non, l'article 5, non ». Ben, la Turquie pourrait rester dans l'OTAN, mais alors que vous avez un Poutine qui envahit les pays baltes, dire non, non, article 5, non, et bloquer l'activation de l'article 5. Donc à ce moment-là, ça jette un flou. Hein. Il ne serait pas tout seul, il y aurait probablement Orban, tout ça et tout, mais enfin, ça gênerait, quoi. Ça créerait du bazar. Est-ce que ça balancerait la Turquie dans le camp sino-russe? C'est pas impossible aussi. Moi, depuis le. Enfin, ce que je disais déjà à l'époque de l'Atlas des guerres à venir, et même avant, c'est que j'envisageais une sorte de que l'équivalent du pacte germano-soviétique, ce serait entre la Turquie et la Russie. Et que la question, c'est savoir qu'est-ce qui se partagerait. Ben, ils pourraient se partager l'Arménie, par exemple, ou le Caucase. Vous pourriez avoir, par exemple, la Turquie qui décide carrément d'amputer le corridor de Zanguezour à l'Arménie, avec l'aide de l'Azerbaïdjan, en achetant, d'une certaine manière, l'inaction russe. Il pourrait aussi, par exemple, offrir à la Russie de récupérer sa base de Tartous, en Syrie, en échange d'une inaction dans le cadre de l'OTAN. Il peut y avoir des choses comme ça, et à mon avis, il va y avoir des trucs temporairement comme ça. Le problème aussi, c'est si c'est l'ordre dans lequel les choses se passeraient. Si l'Iran se casse la figure, ou si vous avez une relative confrontation Turquie-Iran, est-ce que la Russie pourrait laisser faire, alors que l'Iran est quand même un allié proche de la Russie? Alors, en même temps, j'ai cru comprendre que Vladimir Poutine avait envoyé le signal comme quoi. Si l'Iran s'engrainait avec les États-Unis, il pourrait rien faire. Tu m'étonnes. Mais voilà, difficile à dire. En tout cas, voilà, si je dois conclure, disons que ça serait un beau bordel.
Ok, et ensuite, comme question chouard, on avait quid des frères musulmans dans la zone, en Turquie et en Occident? Vont-ils disparaître ou gagner en Occident?
Ça va devenir comme les comme l'international communiste, en fait. Ça va devenir comme les partis communistes, comme le parti communiste. C'est-à-dire que, pas oublier, hein, que pendant la guerre froide, dans les années 50-60, on avait un parti communiste à 25% en France. Eh ben, vous aurez peut-être un parti islamiste et probablement pro-turc à 25% en France. Probablement que vous aurez des gros problèmes en Allemagne aussi avec leur énorme diaspora turque. Il y a combien? 2 millions de Turcs en Allemagne, un truc comme ça. Ça va être compliqué tout ça. Ça va être très très compliqué et c'est une des choses contre. C'est un des défis pour l'Europe. Et d'ores et déjà, Erdogan essaie de jouer là-dessus d'ailleurs.
Ok, et eh bien écoute, on a. Ah, attends, il y a un dernier truc. Bah non, écoute, on a fini.
C'est qui? C'est Hugo qui dit Israël, les États-Unis, la langue future de l'Empire chocolatin. Tout à fait. Tout à fait. L'Empire chocolatin triomphera. Mais écoute, je pense qu'on peut terminer sur ces bonnes paroles. À tout de suite pour nos chers souscripteurs. À bientôt pour les autres que je remercie d'avoir été ici.